Propose d'ouvrir donc nos Bibles à Jean au chapitre 3, les versets 34 à 36. Donc, il y avait déjà eu une prédication sur ce passage, puisque nous sommes actuellement au chapitre 6, verset 22. Hein. Et je souhaitais revenir sur ce passage-là. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que non, c'est le verset 33, pardon, excusez-moi, mais que Dieu est vrai. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a mis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Donc, je suis toujours particulièrement émerveillé quand je vois comment le Seigneur conduit les choses en ce qui concerne donc l'osmose entre la présidence et le message. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement parler du Saint-Esprit et ce matin, dans nos prières, dans ce qui a été dit lors de la présidence, il était question de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Puisque le Saint-Esprit est Dieu. Aussi, donc, merci Seigneur de cette préparation par rapport à ce message qui vient de toi. Donc, le contexte du chapitre 3 est le suivant. Nicodème, le pharisien, donc, vient voir Jésus. Ces miracles avaient en effet suscité une certaine foi chez lui. Mais malgré toute la science théologique qu'il possédait, il n'a pas compris que l'homme non régénéré est livré à une religion faite de rites extérieurs, ne peut connaître la vie de l'Esprit. Jésus lui rappelle à cet effet qu'il lui faut naître de nouveau, naître spirituellement donc, d'eau et d'esprit, est-il écrit au verset 5 du chapitre 3. Cette action miraculeuse et purificatrice de l'esprit dans la vie des individus sera rendue possible, et nous l'avons chanté, rendue possible par l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu sur la croix. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc ça, c'est une preuve de l'amour de Dieu pour le monde. La vie éternelle est offerte à ceux qui croient au Fils. Jean-Baptiste intervient donc comme témoin à partir du verset 22 de ce chapitre 3. Il rend un témoignage à Jésus-Christ et il certifie Jean-Baptiste, que la parole du Christ est vraie. Versets 22 à 36. Dans ce témoignage de Jean, je m'emploierai à développer, comme je vous le disais, les versets 34 à 36, mais plus précisément, vraiment cette partie-là, parce que le reste est lié, le verset 34b, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ça, c'est dans la version seconde, 1979, hein, dans la version que je vous ai lue. Et dans la version Summer, nous pouvons lire, Dieu lui donne son esprit sans restriction. C'est dans l'autre sens. Il y a une version négative pour dire la chose par rapport à la mesure. Et là, c'est dans Summer sans restriction. Et donc, mon objectif dans ce message est de montrer que l'esprit qui est donné sans mesure à Jésus est donné de la même manière, c'est-à-dire sans restriction, à ceux qui croient en lui. Donc à cet effet, j'aborderai dans un premier temps, une première partie, les caractéristiques et l'œuvre du Saint-Esprit. Alors c'est un peu théologique. On va faire de la théologie. Et dans un deuxième temps, je développerai les conséquences de l'Esprit dans nos vies et dans la vie des croyants. Il y aura des applications. Voilà. Premièrement, caractéristiques de l'œuvre du Saint-Esprit. Première caractéristique importante, je l'ai dit en introduction, la nature divine du Saint-Esprit. Quand l'ange annonce la naissance de Jésus-Christ à Marie, en Luc 1, versets 32 à 35, nous lisons « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut le couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Conçu du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a bien les mêmes caractéristiques que Dieu. Il est éternel. Hébreux 9, verset 14, je dis juste qui est important, je ne lis pas forcément tout le verset parce que ça ferait trop. Mais je montre bien que c'est dans la parole et pas qu'à cet endroit-là. L'esprit, il est question d'esprit éternel, omniprésent. Psaume 139, versets 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Vous savez, c'est là qu'il dit si je vais loin de toi, tu y es. Si je vais dans les ténèbres, tu y es. Les ténèbres se transforment en lumière, etc. Où irai-je loin de ton esprit? C'est impossible, il est omniprésent. Le croyant peut être assuré de l'omniprésence du Saint-Esprit dans sa vie. Il est omniscient, l'esprit est omniscient. Donc il sait tout. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Un rôle très très important, cet esprit. Il communique la vie spirituelle aux croyants. Le verset 36 nous dit, de ce chapitre que je vous ai lu, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Vous pouvez aussi lire Jean 3, les versets 3 à 8, concernant donc Nicodème. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, donc, n'est pas un concept abstrait, mais il a les attributs d'une personne vivante. Et donc, à ce titre, il enseigne. Jean 14, verset 26. Le Consolateur, l'Esprit Saint, nous enseignera toutes choses. Il écoute et il parle. Jean 16, verset 13. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Il n'y a pas de secret pour nous. Autrement dit, rien n'est caché. Tout ce qu'il a entendu, il nous l'annonce. Il rend témoignage à Jésus-Christ. Jean 15, verset 26. L'Esprit de vérité rendra témoignage de moi. C'est Jésus qui parle. L'Esprit de vérité rendra témoignage de moi. Il prie pour nous. Romains 8, verset 27. C'est selon Dieu qu'il, le Saint-Esprit, intercède en faveur des saints. Il est attristé. Éphésiens 4, verset 30, Paul donne ce commandement : n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous pouvons l'attrister par notre attitude, par des manières de faire et d'être qui ne correspondent pas à ce que l'Évangile prescrit. L'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent dès la création. Au deuxième verset de la Bible, il est écrit : la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, verset 2. Les gens qui remettent en cause de Dieu. Remettre en cause, très clairement, toute la Bible. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de lui. Il guide le peuple de Dieu. Donc, Israël, dans le désert, après la sortie d'Égypte. C'est dans Ésaïe 63, versets 11 à 13, et je lis ce qui est important. Où est celui qui mettait au milieu d'eux son esprit saint ? C'est une qui dirigea la droite de Moïse. Donc c'est une façon de dire, parce que à l'époque d'Ésaïe, le peuple connaissait beaucoup de désobéissance. Il avait largement attristé le Saint-Esprit. Il était devenu idolâtre et n'était pas fortement, fermement attaché à Dieu. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos, donc à l'époque, hein, c'est ainsi que tu as conduit ton peuple. Il a donné des capacités. Ce matin, on a parlé de cela dans la présidence. Il a donné des capacités aux chefs d'Israël. Alors, il y a plusieurs passages, bien sûr, mais un des plus connus, c'est l'onction du roi David. C'est dans 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit de l'Éternel n'a plus jamais quitté David jusqu'à sa mort. Il a inspiré les prophètes. Michée écrit au chapitre 3, verset 8, Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Ce n'est pas facile pour les prophètes. Dans l'Israël de l'époque qui était désobéissant. Il est question de crime, de péché. Et il faut toute l'onction particulière du Saint-Esprit pour que le prophète accomplisse sa tâche. Certains, voire beaucoup d'entre eux, ont été mis à mort parce qu'ils ont dit la vérité. Dans le Nouveau Testament, Jésus a reçu de Dieu l'Esprit sans restriction. C'est 34b qui nous occupe aujourd'hui, ce matin. Alors, pour ordre, rappelons simplement que Jésus a été conçu par l'Esprit. Je l'ai déjà dit, hein, j'ai déjà fait allusion à ce verset dans un paragraphe précédent. Luc 1, verset 34-35. Jésus a reçu le Saint-Esprit à son baptême. Luc 3, verset 21-22. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne voulait pas, mais Jésus a insisté pour montrer qu'il était obéissant et qu'il accomplissait tout ce que le Père lui avait dit d'accomplir par obéissance. Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, rempli, et quand on est rempli du Saint-Esprit, on se laisse conduire. Le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Parce qu'il m'a oint, donc c'est toujours Jésus qui parle, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au peuple. Voilà. Et c'est lorsqu'il parle de ça, donc Jésus a accompli son ministère par la puissance de l'Esprit. Alors, j'ai sauté un verset, excusez-moi, mais Luc 4, verset 18 à 21. L'Esprit donc du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au peuple. Prophétie exactement reprise dans l'Ancien Testament. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Donc, Jésus montre que ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament se réalise, est accompli en lui. Et, très clairement, donc, le ministère est accompli par la puissance du Saint-Esprit. Aucun ministère, aujourd'hui, dans l'Église, ne peut être accompli sans le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Romains 8, verset 9. L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus nous a promis d'envoyer l'Esprit. Jean 15, 26. Je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité. Consolateur. Parateur. L'Esprit de vérité. Nous nous perdrions, nous nous ferions avoir par l'ennemi, le diable, qui veut nous faire avaler ses mensonges, ses tromperies. Nous avons besoin de l'Esprit pour cela. L'Esprit de vérité. Jésus envoya l'Esprit à la Pentecôte, dans Actes 2, verset 33. Donc c'est Pierre qui parle. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père, il, Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu s'est répandu de manière massive sur les premiers croyants. Comme Jésus est rempli du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit demeure dans l'Église, qui est le corps de Christ. Éphésiens 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'Église locale avec un petit E, fait partie de l'Église universelle, qui est le corps de Christ avec un grand E. Et là, c'est très clair, c'est une habitation de Dieu en esprit. C'est sérieux. Dans l'Église, le Saint-Esprit nomme les responsables. C'est écrit, Actes 20, 28. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau par lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ancien, pasteur, pour paître l'Église de Dieu. Donc, cela vient bien du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit envoie également les missionnaires. Actes 13, verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Peut-on lire ? Ils ne sont pas partis parce qu'ils avaient envie, parce qu'ils pensaient qu'ils en avaient la compétence, parce qu'ils pensaient que c'était bon de le faire. Non. Le Saint-Esprit leur a dit d'aller. Et ils sont allés. L'Esprit Saint dans nos vies. La deuxième partie. Alors, pour recevoir le Saint-Esprit sans restriction, la Bible nous invite à nous repentir de nos péchés. Actes 2, versets 37 et 38. Pierre leur dit. Et ils ont été touchés. C'est la première fois qu'ils parlent en public. Ils ont été touchés et ils demandent à Pierre, que devons-nous faire ? Et là, Pierre leur répond, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 37, 38. Voilà. Vous voyez que tu me demandes. Croire en Jésus-Christ. Donc la Bible nous invite à croire en Jésus-Christ. En lui, c'est en Éphésiens 1, 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Scellés du Saint-Esprit. Vous savez, dans le monde judiciaire, quand il y a une affaire criminelle, par exemple, dans une maison, une personne est découverte morte, assassinée. Eh bien, les services de police judiciaire posent des scellés sur la maison, l'appartement dans lequel s'est produit le crime. Ça veut dire que personne ne peut entrer pour dérober ou disperser les preuves, etc. Eh bien, nous, lorsque nous sommes scellés du Saint-Esprit, personne ne peut briser ces scellés. Nous sommes sous la protection complète et définitive du Saint-Esprit. Personne ne peut nous ravir. Pourtant, le diable est décrit comme un lion rugissant qui cherche à nous ravir, qui cherche à nous détourner, qui cherche à nous éconduire complètement. Il est à l'œuvre, tout le temps pour ça. Le sceau du Saint-Esprit sur nous l'empêche d'agir. La Bible nous invite à prier pour recevoir le Saint-Esprit. Luc 11, verset 13. Le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Demandez et vous recevrez, est-il écrit. On ne peut pas demander le Saint-Esprit. On n'est pas préalablement éclairé par lui. Il n'y a aucun risque, mes amis, que les gens du monde demandent le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Pour demander le Saint-Esprit, il faut avoir été éclairé par lui. Et amené à croire en Jésus. Mais la Bible nous demande quand même, et signe de soumission à Dieu, de prier pour le recevoir. Si nous croyons que Jésus-Christ nous a attirés à lui par son amour et poussés à la repentance, si nous croyons qu'il nous a sauvés en se sacrifiant pour nous, en prenant sur lui notre condamnation, la condamnation qui normalement aurait dû nous échoir. Bref, si nous croyons que Christ est le Fils de Dieu et qu'il a reçu une pleine mesure du Saint-Esprit, du Père, eh bien, cette pleine mesure nous est donnée également, sans restriction aucune. Mes amis, il n'y a pas d'ersatz de Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit mis à minima. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit est donné dans toute sa plénitude. Et il remplit tout. C'est une conséquence directe. Donc, recevoir le Saint-Esprit dans sa plénitude, c'est une conséquence directe de notre foi en Jésus-Christ. Si notre foi n'est pas réelle, nous ne pouvons pas demander le Saint-Esprit avec l'assurance de l'avoir reçu. Paul dit cela dans Romains 8, verset 9b. Romains 8, 9b. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il lui appartient ? Non, il ne lui appartient pas. Et donc ça veut dire à fortiori que ceux qui lui appartiennent ont le Saint-Esprit. Nous comprenons bien le français. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne lui appartiennent pas, et donc ceux qui l'ont, lui appartiennent. Mais c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut le dire. Ceux qui lui appartiennent reçoivent. Et c'est un don donc pour tous les croyants. Paul nous commande même d'être remplis du Saint-Esprit. Il dit dans Éphésiens 5, verset 18, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre qu'il nous donne. Soyez remplis du Saint-Esprit. Paraphraser, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire très clairement, parce qu'on ne peut pas recevoir une partie de Saint-Esprit. On est forcément rempli. Mais dans notre attitude, ça veut dire qu'on agit comme s'il n'était pas là. Et du coup, on l'attriste. Parce que, eh bien, on ne met pas en pratique la parole de vérité. On prend des libertés. On dit c'est pas grave, etc., etc. Soyez remplis, mes chers amis. Sois rempli, Jean-Marc. La foi en Jésus-Christ, nous l'avons vue plus haut, est comme un sceau à poser dans le Saint-Esprit. Ne nous laissons jamais, jamais éconduire par l'ennemi qui voudra le faire. Et qui voudrait nous faire croire que ce sceau, plus en plus de lézards dedans, et que du coup, eh bien, nous ne sommes pas cédés du Saint-Esprit. Mais vous le savez, il est menteur et trompeur, et il cherchera toujours. L'œuvre du Saint-Esprit est de demeurer dans le cœur, de convaincre de péché et lui donner une vie nouvelle. Voilà l'œuvre de Saint-Esprit. Et ça ne peut pas s'accommoder de largesse que nous aurions pu prendre par rapport à des comportements hérités de notre belle manière de vivre. Nous sommes dans cette chair. Vous savez que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais nous avons l'assurance, l'absolue certitude que le Saint-Esprit demeure. Dans le cœur, dans la vie, de tous les croyants. Et nous pouvons venir au Seigneur Jésus, à chaque fois que nous sommes convaincus des péchés, nous pouvons nous confesser nos péchés, car il est fidèle et nous les pardonner. Il nous a tout pardonné, nos péchés passés, ce que nous commettons aujourd'hui et ce que nous allons commettre plus. Mais malgré tout, le Saint-Esprit nous convainc de péché. Ne faisons pas comme si nous n'étions pas là, comme si nous n'avions rien entendu. Parce que, mes amis, le Saint-Esprit se manifeste. Il a le pouvoir de le faire. Et si on ne veut pas l'entendre, c'est notre faute, c'est notre responsabilité. Donc ne bouchons pas nos oreilles, ne fermons pas les yeux quand le Saint-Esprit nous pointe du doigt des choses que nous devons faire. Et engageons-nous à combattre cette sagesse. Si notre foi reste faible, le Saint-Esprit reste pleinement à l'œuvre dans nos vies. L'amour de Dieu est déversé en nous. Romains 5:5. Lisons. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne une puissance pour témoigner. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. La mission Le Saint-Esprit intercède pour nous. Nous l'avons déjà vu. Le Saint-Esprit nous encourage. Acte 9, verset 31. L'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église primitive, la première Église, croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme il devait être encouragé de voir, il se rajoutait tous les jours 3000. L'Église croissant. Nous pouvons avoir la même attente pour la nôtre, l'Église. Le Saint-Esprit nous donne de la joie, nous donne la joie et la paix. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul dit, autant qu'il est possible, vivez en paix les uns avec les autres. Autant qu'il est possible. Parce que le Saint-Esprit produit cela en nous. Si nous sommes en guerre avec la moitié de l'humanité, c'est dissonant, n'est-ce pas? Discordant, fortement. Ça ne s'accorde pas. Le Saint-Esprit produit des fruits en nous. Vous connaissez le passage de Galates 5, 16 à 25. Alors, il y a les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Alors, les fruits de l'esprit, ou le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Pourtant, la maîtrise de soi, c'est ce qui nous permet de rester en paix avec les autres. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains 8, verset 26. Le Saint-Esprit nous accorde des dons. Les dons d'esprit dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. En sachant que ces dons sont donnés pour l'utilité commune. Ils ne sont pas pour nous. Ils ne sont pas pour que nous puissions nous glorifier en quoi que ce soit. Au verset 7, il est dit, dans 1 Corinthiens 12, ils sont donnés pour l'utilité commune. Il faut que ça serve à la communauté. Donc, si le Seigneur nous a donné des dons, le bouton. Le Seigneur nous a donné les dons et que nous les gardons pour nous. Nous ne servons pas à l'utilité commune. J'ai bien compris ce passage. Je crois que vous avez compris. L'utilité commune au sein de l'Église. L'Esprit les distribue à chacun en particulier comme il veut. Seigneur, je voudrais avoir ce don. Si c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, je pourrais user mes genoux à prier, à prier, à prier, il ne me sera pas accordé. Parce qu'il est écrit que le Seigneur, l'Esprit, les distribue à chacun, en particulier comme nous. Donc ça c'est au verset 11 de 1 Corinthiens 12. Mes amis, Christ nous a tout donné. Absolument tout. Il n'a rien gardé. Les dons, il les a mis en plénitude. Il était lui, contrairement à nous, aussi naturellement. 100% Dieu et 100% homme. Il n'a rien gardé. Il a tout donné. Et nous jouissons pleinement de son héritage. Cet héritage, nous l'avons à 100%. Oui, il y a des hommes riches, très riches, qui, dans leur testament, donnent 10% à l'un, 20% à l'autre, 50% à l'autre. En droit français, c'est pas tout à fait comme ça. Mais il y a bien des pourcentages, en fonction du rang en France de parenté, n'est-ce pas? Du lien de parenté. Christ a fait de nous des co-héritiers du royaume. Nous sommes héritiers du royaume. Vous vous rendez compte? Cela doit nous mettre dans une situation d'humilité maximum. Il ne peut pas y avoir, lorsque l'on comprend cela du cœur, la moindre once de orgueil dans nos vies. Parce que Dieu fait grâce aux hommes. Et donc, si nous voulons vivre de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, soyons humbles. Soyons humbles. Parce qu'il nous a tout donné. Tout, absolument tout. Et ça dépasse toutes les richesses du monde. Parce qu'il nous a donné les choses spirituelles. En conclusion de ce message, je vais vous lire un passage dans Colossiens 2, versets 9 et 10, et qui résume assez bien ce que j'ai développé dans ce message. En lui, donc en Christ, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. L'Esprit de Dieu nous est donné sans restriction. Il ne nous est pas donné avec mesure, par petits bouts. L'Esprit nous est donné pleinement. Que nous soyons remplis. Nous le sommes qui nous lui appartient. Que le nom du Seigneur Jésus.